Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Et puis tu vas apprendre à dire bonjour.
Pardon ?
Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour.
Bonjour.
Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour.
Bonjour.
Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade.
Bonjour.
Fais-le, ça.
Bonjour.
Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. D'ailleurs, dis-moi bonjour.
Bonjour. Non, je l'ai loupé, celui-là. Je m'en suis rendu compte après. Bonjour.
Voilà, tu vois. Tu le sens de toi-même maintenant.
Ouais. Je peux sourire en même temps.
Tu peux aussi, on sent dedans une certaine compassion.
Bonjour.
Toc toc badaboum. Souple comme un chat, sa désinvolture inspira Steven Spielberg, qui raconta avoir vu 8 fois l'homme de Rio avant de tourner Indiana Jones. De même que les auteurs de la BD Blueberry, Giraud et Charlier, qui donnèrent sa coolitude et ses traits à leur charismatique lieutenant de cavalerie. Si ça ne suffisait pas, c'est également en pensant à cet idéal masculin que le papa japonais du manga Cobra accoucha du célèbre flibustier intergalactique au bras fusil d'acier, sans oublier Belmont, le chasseur de ghouls et de vampires du jeu vidéo Castlevania, qui lui doit son nom. Par sa grâce athlétique, son goût du risque et son charme ravageur plein d'auto-dérision, Jean-Paul Belmondo a marqué 3 générations d'acteurs, de spectateurs et de réalisateurs. Et, au passage, quelques musiciens, de Kid Francescoli à l'invraisemblable Bob Sinclair. Ce que les morfalous du magazine SoFilm entérinent aujourd'hui en publiant « Plus bébelle la vie », monolithe de témoignages et d'analyses sur l'art et la vie du comédien magnifique, professionnel et guignolo, l'ouvrage est disponible aux éditions Marabout. Parmi ces témoignages, on retrouve les avis énamourés de Quentin Tarantino, John Woo, Vima Laponce, Quentin Dupieux, Michel Hazanavicius, Arnaud Desplechin, Albert Dupontel ou Pamela Anderson. Témoignages qui vous seront lus ce soir entre deux cascades. Car, comme le dit Jean-Paul Belmondo lui-même, à 85 ans, interviewé par Brieuc-Ferrault et Jean-Vic Chaput, en introduction du livre, les cascades, bon, c'est effrayant au début, quand vous vous lancez. Les cascades, c'est la liberté.
Bonjour.
Bonsoir, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez du lundi au jeudi de 21h à 22h, tel un phare dans la nuit. Bébelle, déjà, d'où vient ce surnom, Bébelle ? L'histoire est résumée par Belmondo en personne, au début du livre, « Plus bébelle la vie ». C'est la transformation du nom d'un personnage de vagabond en haillon, interprété par Jean Gabin, Pépel, dans le film Les Bas-fonds de Jean Renoir, un personnage de marginal, de voleur. Le premier à avoir appelé Bébelle, Bébelle, c'est le comédien Hubert Deschamps, vraisemblablement parce que Belmondo, à l'époque, à ses débuts, portait toujours le même pull. Donc on est passé de Pépel à Bébelle, ce qui, 40 ans plus tard, ravit Jean-Paul. Ça le flatte d'avoir un surnom. Ça veut dire qu'il fait partie de la vie des gens. Maintenant que vous savez ça, on peut rentrer dans le dur avec un extrait d'un article qui figure dans l'ouvrage « Plus bébelle la vie » consacré au secret de fabrication du révolutionnaire film « À bout de souffle » en 1960, le premier long-métrage de l'oracle de Rolle en Suisse, Jean-Luc Godard, porté à l'époque par un jeune acteur de 26 ans dont le sourire, la décontraction et les manières feront le tour du monde.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Fous le camp, les flics arrivent dans 5 minutes.
Ton argent.
Fous le camp, la petite américaine m'a dénoncé.
Oh merde. Allez, allez, viens.
Non, moi je reste, toi t'es toi.
Fais pas le con, grimpe là-dedans.
Non, je reste. Oui, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir.
Tu es complètement dingue, allez, monte.
Non, la police m'en fout, sauverait ma tête. Ce qui m'ennuie en ce moment, c'est que je devrais pas penser à elle. Et j'y arrive pas.
Godard tient une amorce d'histoire empruntée à Truffaut. Mais pas grand-chose, mais il téléphone à Belmondo pour lui rappeler leur vague promesse de se retrouver et lui raconter en quelques mots. C'est l'histoire d'un type, il arrive de Marseille. Il vole une voiture pour retrouver sa fiancée, il va tuer un flic, à la fin, il meurt ou il tue la fille, on verra. Bon, l'acteur accepte d'en être, confiant dans l'audace de Godard et sa capacité à réinventer le cinéma. La veille du tournage, rien n'est écrit, à part un résumé de l'histoire d'un bout de souffle griffonné sur un bout de papier. « Tu sais au moins ce que tu vas faire ?» lance Belmondo. « Non, évidemment. » Le lendemain, le 17 août 1959, le cinéaste ne déçoit pas. Il ramène des feuilles noircies de notes sur la psychologie de ses deux personnages, dont il ne se sert pas. Il vient voir son acteur. « Tu entres dans la cabine téléphonique, tu téléphones et tu dis ce que tu veux. » Belmondo rentre et ressort. Godard. « Bon, ça va, on retournera demain, j'ai plus d'idées. » Il refera le coup plusieurs fois, peu importe, personne ne s'en offusque, et surtout pas Belmondo. Car selon lui, le thème du film n'est autre que la liberté totale. Les tournages, avec Marcel Carné par exemple, c'était encore très structuré. À l'époque, il y avait beaucoup de contraintes techniques. Moi, je venais du théâtre, je parlais fort, je trouvais le cinéma très emmerdant. C'est avec Godard que j'ai eu la révélation. Pour moi, habitué à la rigueur du théâtre, c'était fabuleux. Je rentrais chez moi le soir et je disais à ma femme « C'est formidable, c'est un fou !» ou un génie, difficile de savoir. Pour l'heure, Belmondo et sa partenaire Jean Seberg en sont persuadés. Le film n'a aucune chance de sortir. Trop transgressif, alors il n'y a plus rien à perdre. Belmondo joue avec une spontanéité sans retenue. « À nouveau, dit-il, je suis un môme qu'on ne grondera pas, un délinquant qu'on ne peut pas condamner, un criminel sans crime, un meurtrier aux mains propres, un enfant prodigue. Godard est en train de m'accorder une formidable impunité à être moi-même. Je détiens les pleins pouvoirs sur mon être, l'authentique, celui qu'une caméra peut saisir sans emprisonner. Je suis dédouané du réel. Je peux pisser dans un lavabo, fumer torse nu au lit pendant un quart d'heure, faire l'amour sous les draps et injurier les spectateurs. » Le 16 mars 1960, À bout de souffle sort au cinéma. Un succès à 2 millions d'entrées et une onde de choc libératrice. Soudain, tous les codes du cinéma volent en éclats, dynamité. Il a réussi ce que les autres ont raté, dit Jean Cocteau en parlant de Godard, sans oublier un mot pour l'acteur principal. Et ce jeune homme, dont je ne veux même pas savoir le nom, il est au-dessus de tous les autres. Truffaut y va lui aussi sans détour. Godard a pulvérisé le système. Il a fichu la pagaille dans le cinéma, comme l'a fait Picasso dans la peinture, et comme lui, il a tout rendu possible. Belmondo devient le visage de cette déflagration, le champion de ce vent de liberté, soufflé par la nouvelle vague.
Nova, Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
L'un des miracles de l'œuvre de Jean-Paul Belmondo, c'est d'avoir été à la fois l'un des corps, l'un des visages emblématiques de la nouvelle vague, ravissant la critique la plus exigeante, tout en étant par la suite, voire en même temps, l'une des vedettes les plus populaires du pays, jonglant entre polar et comédie grand guignol, comme par exemple L'Animal, en 1977, mis en scène par Claude Zidi, dans lequel Bébel interprète un cascadeur, Michel Gaucher, qui travaille avec sa fiancée Jane. Quelques minutes avant leur mariage, on leur demande d'exécuter une cascade en voiture, cascade qui se déroule très mal, problème de frein, hôpital, contusion, jambes cassées. Jane quitte Michel, Michel perd son job, et pour toucher des indemnités, simule une débilité mentale, jusqu'à ce qu'un copain cascadeur lui demande de le remplacer de temps en temps en se déguisant en gorille dans un supermarché pour une publicité pour des pâtes. Et là, le film L'Animal possédait une BO assez funky, composée par Vladimir Kosma, ici accompagné d'un orchestre philharmonique. Ride on, Monkey Michel! Jean-Claude Van Damme, Benicio del Toro, l'acteur allemand Daniel Brühl, Isabelle Adjani, Cédric Clapiche, ils figurent tous en interview dans Plus belle la vie, ouvrage hommage au génie de Belmondo, beau livre aux couleurs flash, superbement maquetté, bourré de bonnes histoires et conçu par les cinéphiles du magazine SoFilm. Voici deux témoignages tirés de ce bouquin, celui de l'acteur et cinéaste Albert Dupontel, Bernie, le créateur, au revoir là-haut, et de l'actrice Vima Laponce, vue dans Les Garçons Sauvages ou La Fille du 14 juillet.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Il paraît qu'on veut me fourrer à sec. Ben, je suis d'accord. Lequel commence ?
Belmondo, vu par Albert Dupontel.
Je suis né dans un monde où Belmondo existait avec la même évidence que la nature, quand elle est jolie. Et je n'ai donc aucun souvenir d'une première sensation. Toutefois, je me rappelle avoir vu un film de lui, de ma propre initiative. C'était Le Casse, un film interdit aux moins de 13 ans à l'époque, me semble-t-il. Comme j'étais trop jeune pour le voir, j'ai dû surmonter le regard perplexe et accusateur de la caissière pour me glisser dans la salle avec quelques complices. Mon plaisir de spectateur était doublé par celui de mon audace. Pour aller voir Belmondo, il fallait être un peu Belmondo, un immense talent d'acteur doublé d'une joie de vivre quasi indécente, y compris dans les films dramatiques. Puis, plus tard, certains films me sont restés un peu plus en mémoire. Il y a eu Un singe en hiver, Pierrot le fou, Week-end à Zuidkout, mais aussi Le magnifique, L'animal. Résultat, pas mal de mes souvenirs de vie sont désormais associés à des films de Jean-Paul, dont beaucoup de soirées passées avec mes parents à regarder ces films. Jean-Paul, c'est un pur scapin, quelqu'un pour qui l'absurdité de la vie ne peut qu'être tourné en dérision par le jeu. C'est quelqu'un qui a pigé qu'à défaut de comprendre la vie, on peut la jouer. Il m'a transmis l'idée majeure qu'il faut se dépêcher de vivre, et si possible, en amusant son prochain. Stefan Zweig dit que les hommes ont besoin des dieux pour exister, mais que les dieux ont besoin de certains hommes pour prouver qu'ils existent. Jean-Paul est de ceux-là. Dans le cinéma français, il y a souvent eu des acteurs physiques comme Jean Marais ou Lino Ventura. Jean-Paul a juste fait perdurer une tradition, mais en y ajoutant ce qui ressemble à une forme de dérision. En cela, il est novateur. Lorsque je l'ai rencontré, je ne le soupçonnais pas d'être aussi raccord avec l'idée que je me faisais de lui. Je me disais, ce type doit être gentil, humble, curieux des autres, à l'écoute. Et le pire, c'est qu'il l'était. Bertrand Blier, dans son film Les Acteurs, lui fait dire « Je n'ai jamais emmerdé les autres avec mes angoisses ». Après ses premiers pépins physiques, je me suis permis de l'appeler. Vous savez quelle a été sa première phrase ? « Comment tu vas ?» Ça en dit quand même long sur le recul intérieur du personnage.
Belmondo, vu par Vima Laponce.
Quand je pense à Belmondo, je pense toujours à cette phrase. L'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. L'autre truc auquel je pense, c'est cette chose simple. J'aimerais bien avoir le torse de Belmondo, parce qu'il est trop beau, ce torse. Je me suis vraiment penché sur lui quand j'étais étudiante au conservatoire. J'avais rendu un travail d'étude assez conséquent dans lequel je comparais À bout de souffle au film de Jean Rouch, Moi, un noir. Après, j'ai eu ma période où je n'arrêtais pas de me passer le pouce sur les lèvres, comme Jean Seberg.
Qu'est-ce que c'est, dégueulasse ?
C'était devenu comme un signe distinctif. Entre tout ça, Belmondo est devenu l'une de mes références parce qu'il a l'air de se marrer tout le temps, de prendre la vie comme un jeu. J'adore l'idée d'un mec qui commence chez Godard, d'une façon très singulière, puis incarne une sorte d'aventurier absolument pas macho, dans L'Homme de Rio ou Le Magnifique. Je me suis demandé pourquoi les gens de ma génération aimaient tant Bebel, et je pense que ça tient au fait que nous sommes la première génération qui peut autant apprécier les films d'auteur que Retour vers le futur. En cela, Bebel nous parle, parce qu'on ne sait jamais vraiment où il est dans le cinéma. Et puis, On parle d'une époque du cinéma français où l'acteur était physique, où énormément de sens passait par l'expression du corps, du visage. De Funès, il fait des grimaces et il cartonne. Belmondo, il saute sur des métros et il cartonne. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais Belmondo, c'est le premier vrai acteur français qui dégage le même truc que les punks. Il est constamment dans le do-it-yourself. Il invente un type de cinéma avec presque rien. Son corps, ses mimiques, sa gestuelle. Enfin, Belmondo, ça représente pour moi l'une des plus belles mélancolies du cinéma français. Quand je dis ça, on se fout de moi. Je n'ai pas compté le nombre de fois, mais j'ai énormément de souvenirs de lui dans ses films, filmés de dos, qui marchent en s'éloignant. Alors évidemment, en tant que fille, tu as envie de le retenir et de lui crier « Mais non, Jean-Paul, ne pars pas !» La vie n'est pas si dégueulasse.
Bookbox. Parfois, une page suffit.
Parmi les autres artistes sidérés par l'aplomb virevoltant de l'acteur de Flic ou Voyou ou de Borsalino, on peut compter sur le jeune rocker niçois Kid Francescoli qui en 2010 signait un double titre curieux intitulé Classico Belmondo, possible BO pour un film pas encore tourné. Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez toujours la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, consacré ce soir à ce livre que les morfalous du magazine Sofilm viennent de publier aux éditions Marabout, Plus bébelle la vie sur Belmondo, un gros bouquin cintré de témoignages sur le comédien magnifique, professionnel et guignolo. Voici la lecture de trois considérations formulées par trois cinéastes fans, Michel Hazanavicius, Quentin Tarantino et Quentin Dupieux.
Nova Book Box. Nova te mince la tête avec des mots très doux.
Juif vous êtes. Juif vous avez l'air.
Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début.
Vas.
On dit pas juif vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
Belmondo vu par Michel Hazanavicius.
Il y avait cette phrase que mes parents disaient régulièrement en regardant les films. Oh, ils ont dû se marrer à faire ce film. Je ne sais pas pourquoi, j'associe cette phrase à Belmondo. Il y avait un truc hyper enfantin chez lui. Il s'accroche à un hélicoptère, saute dans une piscine, embrasse des super nanas, et quand il tire, son flingue peut faire plop plop.
La vie est marrante, quoi.
Le seul concurrent de Belmondo, c'était Delon. Mais en vrai, ce n'était pas des concurrents. Le sel n'est pas le concurrent du sucre. Delon, c'est une lame de couteau, alors que Belmondo, c'est de l'eau fraîche. Ce qui s'est passé, je crois, c'est qu'après la sortie de Bullitt en 1968, le cinéma français, qui était très bon en polar, se rend compte qu'il ne peut plus suivre en termes de budget, de cascades, de spectacles. Alors Belmondo se met à déconner, et Delon continue à être sérieux, mais il a du mal, parce que ça ne tient plus que sur lui, sur sa personnalité. La distance de Belmondo fait que ça marche, et vu qu'il fait ses propres cascades, son corps remplace les grosses bagnoles des Américains. Le sérieux de Delon fait qu'on aurait pu le détourner dans la classe américaine. Belmondo, au contraire, reste intouchable, parce qu'il intègre sa propre vanne. Delon est un acteur incroyable avec une carrière exceptionnelle, c'est une personnalité fascinante, mais il n'a pas l'air en paix avec lui-même. On dirait qu'il n'aime plus le monde qui l'entoure. Quand Delon entre dans un resto, tout le monde se tait et a peur. Dans un resto avec Belmondo, même si les gens arrêtent de parler, ils ont la banane, ils viennent lui parler direct. Il est comme la Tour Eiffel, mais en plus marrant. C'est vraiment dommage pour le cinéma que Belmondo ait eu son AVC. Il aurait dû avoir sa troisième vie d'acteur, comme Jean Gabin. Je lui avais proposé le rôle tenu par Pierre Belmar dans OSS, mais c'était juste après son AVC et c'était un peu compliqué. Pour Le Redoutable, ça ne s'est pas fait non plus, c'était le rôle du grognon au restaurant qu'a finalement tenu Jean-Pierre Mocky. Sur les plateaux de cinéma, les acteurs attendent beaucoup. Que les plans soient prêts, que la lumière soit en place, qu'on ait fini avec une autre séquence, etc. Alors souvent, je pense à cette phrase de Belmondo. Je suis payé pour attendre. Le jeu, c'est gratuit. Au fond, c'est ça que j'aime chez Bebel. Le jeu, c'est gratuit.
Belmondo vu par Quentin Tarantino.
Au début d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard, on voit un jeune acteur devant une affiche de cinéma qui rêve de devenir un jour Humphrey Bogart. Durant les 20 années suivantes, on a tous espéré devenir un jour Jean-Paul Belmondo. Les films de la Nouvelle Vague, les films d'action, les films policiers, Belmondo les a tous faits. Avant que Jackie Chan ne fasse ses propres cascades, Belmondo faisait les siennes. Belmondo, ce n'est pas seulement le nom d'une star de cinéma, ce n'est pas seulement le nom d'un homme, c'est un verbe qui représente la vitalité, le charisme, une force de l'esprit. Cela représente la super coolitude. Voilà ce que veut dire Belmondo.
Belmondo vu par Quentin Dupieux.
Moi, je suis Bebel, mais alors à 3000%. Pour tout un tas de raisons. Bebel, c'est le magnifique. Il incarne une idée bien française de la joie de vivre. Il flotte, il plane. Avant même de découvrir le cinéma des frères Zucker, la série des Y a-t-il un flic avec Leslie Nielsen, tu te prends le magnifique en pleine gueule et tu comprends que même si les Américains cartonnent, la France a su faire des grandes comédies bien dingues. Ce film, je le vois tout gamin à la télé sans doute. D'entrée de jeu, il me rend fou. Grâce à Belmondo qui est au sommet du cool, mais aussi grâce à Jacqueline Bisset, pour laquelle mon cœur fondait littéralement. Ah, Tatiana ! Crush total.
Je t'aime, océan immense de mon âme. Ta plainte teintée d'écume meule un amer ménage.
C'est très beau, de qui est-ce ?
De moi.
Je vais courir avec toi sur cette plage. Complètement nu. Et lécher le sel de ta peau.
Oh bon.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Si vous aimez, comme moi, ou comme Quentin Dupieux, cette comédie frappadingue, magnifique, réalisée par Philippe de Broca en 1973, qui raconte les rêveries et les frustrations d'un petit écrivain sans le sou, François Merlin, que l'on voit souvent en train de taper à la machine dans sa chambre les aventures du meilleur agent secret du monde, sexy, courageux, séducteur. Mais quel est le nom de ce champion? Je vous le donne en mille, Bob Sinclair. Oui, comme le DJ préféré de mon petit frère, ce Français aux cheveux longs, qui n'est pas forcément du goût dance clubbing des programmateurs de cette station, comme je les comprends. Toutefois, quand je demande à mes voisins de bureau, Sophie Marchand et Jean Morel, les animateurs quotidiens de Bam Bam, le bureau des affaires musicales, quand je leur demande « Mais est-ce qu'il y a tout de même un morceau de Bob Sinclair que nous pourrions proposer à nos fabuleux auditeurs ?» Il me rappelle l'existence d'Ultimate Funk, paru sur l'album Paradise il y a tout juste 20 ans. Bob Sinclair, qui reçut un jour un coup de fil d'un des assistants de Jean-Paul Belmondo, qui lui proposait de déjeuner avec l'acteur, Belmondo ayant ri en voyant le nom de son personnage dans le ciel de la Côte d'Azur sur une banderole accrochée à un avion annonçant la sortie d'un nouvel album.
Bye.
Je ne suis pas l'ennemi public, je suis l'ennemi d'un service public, les banques. J'ai mangé la galette, mais pas la grand-mère, ni le chaperon rouge. Déclaration de Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, en 1977. La même année, quelques mois plus tôt, il a publié son autobiographie sulfureuse, L'instinct de mort, aux éditions Jean-Claude Lattès, et celui qui en acquiert les droits d'adaptation pour le cinéma ne se cache pas très longtemps. C'est Jean-Paul Belmondo, 44 ans. Une vingtaine de pages de continuité dialoguée sera écrite. Le film est annoncé en tournage dès 1978 au Canada et en France, mais tout s'arrête brutalement, sans explication valable. La compagne de Mérine, Jeanne Schneider, écrira que des membres du gouvernement auraient fait pression sur Belmondo pour qu'il ne finalise pas le projet. Mais le livre « Plus bébelle la vie » qui vient de paraître aux éditions Marabout reproduit une lettre du criminel, une lettre que Mérine a envoyée début janvier 1978 à Jean-Paul Belmondo.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Lettre de Jacques Mérine, 670-284, I-81, quartier de haute sécurité, 1 avenue de la division Leclerc, Fresnes, 94-261. À l'attention de M. Jean-Paul Belmondo, Cerito Film, 6 rue Gassendi, Paris, le 20 janvier 1978. Monsieur Belmondo, mon éditeur, Jean-Claude Lattès, m'a informé de votre désir de changer le titre de mon livre « L'instinct de mort » pour son adaptation cinématographique. Je vous donne mon accord, mais soyez aimable le moment venu de me donner le titre que vous envisagez, si cette production se fait. Si, pour vous aider, vous avez besoin de renseignements canadiens, je m'autorise à vous conseiller de passer par mon grand ami et plus célèbre avocat québécois, Maître Raymond Daoust. Daoust est un grand bonhomme, milliardaire, homme d'affaires et super sympa. Il m'est totalement dévoué par une fidèle amitié. Je tenais à vous informer que je vais me marier dans quelques mois avec la petite Québécoise que j'appelle Joyce dans mon livre, Mademoiselle Jocelyne Doresch. Cette jeune femme a été et est le grand amour de ma vie d'aventurier. Je voulais que vous le sachiez si vous voulez vous en tenir à la véracité de ma vie. Seul un motif de sécurité m'a empêché d'écrire la passion que j'avais pour cette femme. Donc si film il y a, donnez-lui l'importance qu'elle a. C'est-à-dire d'une femme aimée par moi de façon totale. J'y tiens. Maintenant, ne mettez jamais le mot fin. Car c'est un film à suivre. Si ce film se fait, invitez-moi à la première. J'y serai. À votre disposition pour tout. Ok, cordiale salutation. Post-scriptum. J'espère que vous avez reçu ma carte de vœux. Jacques Mérine.
Où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
Autre anecdote plutôt surprenante qui figure dans Plus bébelle la vie, ce livre supervisé par les journalistes Brieux-Ferraud et Jean-Vic Chaput avec une partie de l'équipe du magazine SoFilm, le 31 décembre 1978, Belmondo invite sa famille à dîner chez Maxim's. Le maître d'hôtel vient le voir et lui dit « Un appel pour vous. Je prends, raconte Bébelle, c'est Mérine. Il me souhaite une bonne année. » Et me dit qu'il a entendu parler de quelqu'un qui voulait me casser la gueule. Je réponds, tout va bien. Comment avait-il su que j'étais chez Maxim's? Mystère. Stop à l'hiver, ce n'est pas encore l'heure de réveillonner. Retrouvons des couleurs avec la divine chanteuse carioca Elisette Cardoso et sa chanson Corando Sim, chanson utilisée dans le tintinesque film L'Homme de Rio de Philippe de Broca en 1964 avec un impérial Jean-Paul.
Chorando sim, mas não é de tristeza não, é muita alegria, meu pranto é de emoção. emoção. Estou chorando sim, mas não é de tristeza não. É muita alegria, meu pranto é de emoção. A tristeza foi embora, deixando alegria em seu lugar. Com ela foi a saudade, a felicidade veio comigo morar. Estou chorando sim, mas não é de tristeza não. É muita alegria, meu pranto é de emoção. A tristeza foi embora, deixando alegria em seu lugar. Com ela foi a saudade, a felicidade veio comigo morar. Estou chorando sim, sim, mas não é de tristeza não. É muita alegria, meu pranto é de emoção. Estou chorando sim, mas não é de tristeza não. É muita alegria, meu pranto é de emoção.
Allez, tout doux, vite, une dernière volée pour ce soir d'avis sur l'art et la vie de Jean-Paul Belmondo, tiré du beau livre Plus belle la vie, qui devrait marcher très fort à Noël. On démarre. Vous allez entendre la lecture de quelques extraits d'une interview à propos de Belmondo avec le cinéaste Arnaud Desplechin, suivi d'un extrait d'interview de son confrère hongkongais John Woo, le metteur en scène de Volte-Face ou du Syndicat du Crime, et on terminera avec, oui, une sirène de la pop culture qui s'affirme ces dernières années de plus en plus intensément francophile, Pamela Anderson.
Nova Book Box, sous les couvertures, des personnages au poil.
Belmondo vu par Arnaud Desplechin.
Tu es si belle. Quand je te regarde, c'est une souffrance.
Pourtant, hier, tu disais que c'était une joie.
C'est une joie et une souffrance.
Je vous aime.
Je te crois.
Un film avec Belmondo qui flambe encore dans ma mémoire, c'est La sirène du Mississippi. Le film fut un échec et la mésentente entre Truffaut et Belmondo est notoire. Mais ça reste pour moi le seul film où Belmondo affiche une virilité blessée, incertaine. Celle à laquelle je sais m'identifier en fait. J'ai une passion complète pour La sirène du Mississippi. Dans ce film, Belmondo ne peut pas faire du Belmondo et ça me bouleverse. C'est bizarre et formidable d'être choisi pour jouer la mariée, la jeune vierge. Quel plaisir de le voir dans sa clinique ou quand il voit la femme aimée dans la boîte de nuit, tout ça c'est magnifique. Et puis, il y a un monologue où il parle des filles qu'on croise dans un aéroport, où il joue avec ses mains. À ce moment précis, on sent qu'il n'est pas complètement à l'aise. D'ailleurs, on imagine aisément Truffaut lui dire « Ne le fais pas comme ça, fais-en moins, c'est plus mélancolique. » Chez Godard, il lui était demandé d'arriver en force. Chez Truffaut, au contraire, je trouve qu'il est tout en douceur.
Belmondo, vu par John Woo.
Dans mon esprit, un vrai grand acteur est un musicien comme Mozart, un sculpteur comme Michel-Ange, un poète comme Tagore, un romancier comme Kafka ou Tolstoï, un peintre comme Van Gogh ou Picasso. Ils ont tous quelque chose de spécial qui enrichit nos cœurs, qui nous permet de découvrir la réelle signification de ce que veut vraiment dire « vivre ». Ils nous contaminent avec leur vérité, nous montrent comment aimer le monde et nous révéler en tant qu'être humain. Jean-Paul Belmondo est formidable. Dans le même temps, il est comme un ami proche qu'on aimerait mieux connaître. Le rencontrer, prendre un ou deux verres avec lui, ou juste lui dire bonjour, suffit déjà. Il donne l'impression qu'il serait le même sur l'écran ou dans la vie. Dans chacun de ses films, il ne donne pas l'impression de jouer un rôle. Il révèle naturellement son personnage avec un charme sans fioriture. Parfois, c'est avec une sévérité calme, et d'autres fois avec une performance occasionnelle, mais tout est toujours réel avec lui. Son sourire sincère contient une vitalité infinie ainsi qu'un grand sens de l'humour. Qu'il soit le Belmondo d'About de Souffle ou celui de Borsalino, on peut toujours sentir qu'il est unique. Sa personne m'a toujours inspiré pour créer les personnages principaux de mes histoires. Comme lui, ils sont romantiques, naturels, sensuels, drôles, énergiques et gracieux. Des héros fascinants. Peu d'idoles m'ont tenu compagnie depuis mon adolescence. J'ai 72 ans. J'ai toujours eu une affiche de l'aîné des fers chauds au-dessus de mon bureau, derrière moi. Sur ce poster, il y a une grande photo de la tête de Jean-Paul. Il regarde toujours par-dessus mon épaule quand je travaille sur mes scripts. Avec les vœux chaleureux d'un cher ami, je lui souhaite une bonne santé et beaucoup de bonheur. Merci de nous avoir amené une vie abondante.
Belmondo vu par Pamela Anderson.
Ma découverte de Belmondo remonte à une vingtaine d'années. À l'époque, je passais quelques jours à Saint-Tropez, et c'est sans doute là où je me suis mise à découvrir la culture française. Son cinéma, toutes ces choses auxquelles on n'a pas forcément accès quand on est né comme moi au Canada. Le premier choc, c'est À bout de souffle de Godard. Depuis, j'ai dû le voir 20 fois, peut-être plus. Je m'identifiais tellement au personnage de Gene Seberg, à sa dégaine. À la même époque, une personne de mon entourage était très énervée contre moi et pour se venger, m'a attrapé par les cheveux et me les a coupés, très courts. Sauf que ça ne m'a pas gêné tant que ça. J'ai plutôt pensé, très bien, je vais me coiffer de façon à ressembler à Gene Seberg. Ce sera ma revanche. Bon, le résultat n'était pas très convaincant. Quand mon chéri, Adil Rami, m'a fait la surprise de ce dîner en amoureux où Belmondo est arrivé, j'ai failli m'évanouir. On l'aime beaucoup tous les deux. Ne pas se faire imposer des codes, c'est Belmondo, c'est nous. J'étais avec les deux amours de ma vie. Il sait que cet acteur est tellement important pour moi, comme il sait que mon rêve serait de tourner dans un film de Godard avec lui, même pour une scène minuscule. Le reste de ma culture nouvelle vague, je la perfectionne quand je vais à Los Angeles grâce à mes amis artistes contemporains Ed Rucha et Richard Prince. Ce sont eux qui vont m'intéresser aux artistes des années 60, aux films de Godard, à des comédiens européens comme Alain Delon, Sophia Loren, Brigitte Bardot. Jean-Paul Belmondo, quand tu es une petite Canadienne, ancienne playmate pour Playboy et actrice dans Alerte à Malibu, cette découverte, c'est comme un choc qui change ta vie à jamais. Tu te dis, je ne veux plus vivre selon les codes de l'Amérique. Je veux vivre au rythme de cette nouvelle vague. Je ne veux plus me faire imposer de règles, ni sur ce que je pense, ni sur la façon de me servir de mon corps. Je voulais la liberté de cette époque et de Belmondo. Aujourd'hui, je suis persuadé que mon fils va lui ressembler. Ça m'arrive même de lui montrer des photos de Belmondo et de lui dire, Dylan, dans quelques années, tu vas ressembler à cet homme. Ensuite, je fais la même chose pour mon autre fils, mais avec des photos de Marlon Brando. Et toi, tu vas avoir le charisme de celui-ci. Ce serait une bonne chose, non ?
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
On nous appelle la Californie normande.
Oui, oui.
Messieurs, à Tigreville.
À Tigreville.
Messieurs, votre accueil me bouleverse. Mais ne saurait égarer mon jugement. J'ai tout de même pas mal voyagé. Ce qui me permet de vous dire, en connaissance de cause, que votre patelin est tarte comme il n'est pas permis. Et qu'il y fait un temps de merde.
Je suppose que monsieur plaisante.
Absolument pas.
Vous savez combien il y a eu de jours de soleil en juillet ? 17.
Soleil de mes fesses. Vous savez pas ce que c'est que le soleil ? Vous l'avez jamais vu, vous ? Le soleil. Ah, mais je veux pas voir de vermine. Quel est le monsieur Pay? Les gens de ma suite vont venir. Ils sont des gitans. Battez-les comme moi, mais où?
Un coup de pompe dans le teint que je vais vous traiter.
Barrière, les Esquimaux. Je rentre seul. Le matador rentre toujours seul. Plus il est grand, plus il est seul. À vos banquilles, à vos igloos, à vos pingouins. Por favor, signora. Quelle heure le train pour Madrid?
Dans 5 minutes, si tu te dépêches pas, tu le loupes. Allez, où ça va que je me forme?
Musique et extrait du film Un singe en hiver d'Henri Verneuil, 1962, adapté du roman du même titre d'Antoine Blondin. Le dernier mot pour Belmondo. En 1998, sur le plateau de l'émission Bouillon de culture, Bernard Pivot lui fait passer le questionnaire de Proust. Et quand arrive la question « Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire ?» Belmondo répond « Moi, je suis un optimiste. Alors j'aimerais qu'il me dise « Écoutez, je me suis trompé, redescendez. » La Nova Book Box, c'est déjà fini. L'émission de ce soir a été réalisée par Sullivan Clabeau. Programmation musicale, Michael Lio. On se retrouve demain, dès 21h, pour de nouvelles aventures littéraires. Bonne nuit et à demain.
Voilà, tu le sens de toi-même maintenant.
Ouais, hein? Je peux sourire en même temps.
Tu peux aussi, on sent dedans une certaine compassion.
Bonjour.
Pas trop de sourire.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.